Vous écoutez On lit pour vous.
Doit-on s'inspirer des méthodes radicales du Japon? Un texte de Nathalie Collard, paru le 2 juillet 2026 dans la presse. Au lendemain des déménagements, les rues de Montréal sont encombrées de meubles, de matelas et d'objets en tout genre. Ils s'ajoutent à tous les détritus abandonnés sur les trottoirs ou dans les parcs. Et si la solution à une malpropreté persistante reposait en partie sur le retrait des poubelles, ça semble en tout cas fonctionner au Japon. De retour du Japon, je suis allé préparer un reportage que vous pourrez lire à la rentrée. J'en reviens ébloui par la propreté des rues et des trottoirs. Les gens qui ont visité ce merveilleux pays ont sans doute remarqué qu'il n'y a pas de poubelles dans la rue. On les a retirées en 1995 à la suite des attaques au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Ce que je trouvais incongru lors de ma première visite il y a 25 ans me semble aujourd'hui plein de bon sens. Et si l'absence de poubelles nous responsabilisait davantage? En effet, on voit beaucoup de poubelles qui débordent à Montréal, et quand il n'y a même plus d'espace pour jeter une gomme, eh bien, on laisse ses boîtes de pizza, ses canettes de bière et ses sacs de plastique à côté de la poubelle, comme si l'espace autour faisait également partie de celle-ci. Résultat, c'est dégueulasse. Maintenant, imaginez qu'il n'y a pas de poubelle dans la rue ou dans votre parc préféré. Où jetez-vous vos déchets? Devant un restaurant? Sur un banc? Devant la porte de votre voisin? Avouez que ça devient gênant de s'en débarrasser n'importe où. Vous aurez peut-être davantage le réflexe de garder votre déchet avec vous jusqu'à la maison ou jusqu'à la prochaine poubelle. Est-ce que Montréal devrait tester cette solution? À voir l'état de nos rues et de nos trottoirs, je pense qu'on n'a rien à perdre à essayer. Ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Nos rues ressemblent à des poubelles à ciel ouvert. Non seulement les gens mettent leurs sacs à ordures sur le trottoir à n'importe quel moment de la semaine, ils font de même avec les déchets encombrants. Matelas, vieux meubles, restes de boîtes de carton, sacs de vêtements. On trouve de tout en déambulant dans les rues de Montréal. J'ai même déjà vu un sac vert qui jonchait le trottoir et sur lequel on avait écrit « à donner ». Vraiment? L'absence de poubelles n'est pas la seule bonne idée que j'ai observée à Tokyo. Autre interdiction qu'on devrait importer à Montréal, celle de fumer en public. Alors qu'on souligne le 20e anniversaire de l'interdiction de fumer dans les restos et les bars du Québec, je pense que ce devrait être la prochaine étape. Non seulement fumer sur les trottoirs et dans les parcs empeste les lieux publics et intoxique les gens avec la fumée secondaire, mais en plus, les mégots de cigarettes sont parmi les déchets les plus polluants qui soient. Nos trottoirs et nos parcs en sont couverts. On en trouve partout, et c'est franchement dégoûtant. Marcher à Tokyo, c'est marcher sur des trottoirs immaculés où l'on ne trouve aucun mégot, aucune crotte de chien, rien. Mais alors, où fument les gens, demandez-vous? Dans des espaces réservés à cet effet. On trouve des petits fumoirs publics un peu partout dans la ville. Ce sont des petites roulottes avec une porte coulissante où l'on s'enferme pour boucaner à son aise. L'espace est habituellement vitré. On en trouve aussi dans des édifices de bureaux commerciaux. Vous pensez, « Wesh, fumer dans un espace fermé, quelle horreur !» Eh bien, dites-vous que c'est moins horrible que de polluer l'air des non-fumeurs. Le Japon est une société fort différente de la nôtre, j'en conviens. La politesse y est excessive, le respect des autres et du bien commun. On l'a vu à la suite du match Pays-Bas-Japon, alors que les supporters japonais, fidèles à leur habitude, se sont empressés de ramasser leurs déchets. En général, les Japonais sont pas mal plus disciplinés que les Québécois. Un exemple. Vous ne verrez personne traverser au feu rouge, et ce, même s'il n'y a personne et pas une voiture en vue. C'est comme ça, on respecte le règlement. Tout le contraire de Montréal. Est-ce que tout y est parfait? Bien sûr que non. Le surtourisme a forcé les autorités municipales à réinstaller des poubelles dans certains quartiers de Tokyo. Et sans les escouades propreté de nuit et les nombreuses corvées citoyennes, la ville ne serait sans doute pas aussi propre. Malgré tout, la métropole nippone demeure un exemple pour Montréal. Je gagerais que les Montréalais pourraient s'habituer à une ville propre et ordonnée, qui serait heureux de marcher sur des trottoirs immaculés, qui se réjouiraient de pouvoir profiter de leur parc préféré qui ne ressemblerait plus à un cendrier géant. La propreté urbaine à la japonaise, je dis oui. Et vous? C'était « Doit-on s'inspirer des méthodes radicales du Japon? » Un texte de Nathalie Collard, paru le 2 juillet 2026 dans la presse.
Jonathan Hope, Fantôme et palimpseste. Une entrevue réalisée par Philippe Fortin, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Moins de 2 ans après Ce Lac, un premier roman qui déjà le plaçait dans une catégorie à part, Jonathan Hope revient à la charge avec un nouveau livre qui relève, encore une fois et de façon supérieurement magistrale, le double défi de proposer une œuvre littéraire aboutie, réfléchie, novatrice et captivante, tout en mettant à contribution sa fascination pour l'écologie, les sciences et, de façon étonnante, les voies de passage qui mènent des unes aux autres. Entretien. Pour quiconque souhaiterait avoir un aperçu de ce qu'on peut trouver dans Escar, disons seulement que nous sommes en présence d'une authentique fiction, d'un road novel, d'un périple mystérieux vers le nord, de péripéties en demi-teinte, d'un monologue intérieur bardé de références musicales, historiques et populaires, d'une quête de sens à hauteur d'homme, mais trempée en des temps immémoriaux, d'une nostalgie à la Pérec, d'un existentialisme narratif hautement réflexif et d'une finesse langagière aussi fluide que pénétrante. Comme on peut le lire à la toute fin du livre, dans les notes, Escar constitue le prolongement, si ce n'est l'aboutissement, de travaux entamés durant la pandémie entre membres de diverses cohortes universitaires ayant donné lieu à quelques publications dans la revue Zinc. L'un des projets phares consistait à insuffler une portée littéraire au corpus scientifique. L'idée, c'était de reprendre en fait des travaux ou des recherches en cours en écologie forestière, mais en développant ce qu'on appelait les pertinences littéraires de ces textes-là. Au lieu d'écrire un article scientifique, c'est essentiellement ce qu'ils font en sciences, c'est on a voulu reprendre le même matériau, mais en faire autre chose. Une première version de cette initiative avait mené à Boréaliser, qui rassemblait des travaux centrés sur les perturbations affectant la forêt boréale. L'expérience ayant été fructueuse, le groupe a poursuivi l'exploration en se tournant cette fois vers les eskers, des restants de périodes de glaciation, de rivières sous-glaciaires. Un esker, dérivé du mot d'origine gaélique eskir, qui signifie simplement crête, élévation, qu'est-ce que c'est au juste? L'auteur explique que le mot désigne une formation géologique qui, à première vue, n'a rien de spectaculaire. Essentiellement, ça n'a pas l'air de grand-chose, c'est un tas de sable en fait. Mais à force de lire là-dessus, j'ai fini par aller voir ça ressemblait à quoi en vrai. En allant en observer sur le terrain, Hope a aussi découvert à quel point l'expérience physique d'un esker est distinctive. Quand on est sur un esker, on le sait. Je me souviens de randonnées en forêt où on s'aperçoit que tout d'un coup, on monte, puis là, on est sur une crête. Et là, la forêt change. C'est surtout du pin, donc on comprend que, voilà, il y a quelque chose au niveau du sol qui est différent. C'est sablonneux et il y a moins de mouches aussi. Les eskers jouent également un rôle écologique unique, bien plus important que ne le laisse croire leur apparence modeste, capable de produire une eau d'une pureté remarquable comme celle de la célèbre source Eska à Amos. En gros, un esker, ça fonctionne un peu comme un immense filtre Brita. En parallèle des expérimentations accomplies avec ses comparses d'autres disciplines, Hope amorce l'écriture de ce qui deviendra finalement Escar, un titre déniché par glissement à partir du mot esker. Curieusement, c'est après avoir lu avec un réel et très vif intérêt un guide d'identification des dépôts de surface dénichés dans une librairie que l'idée lui est venue. L'auteur s'est demandé s'il était possible de détourner un tel objet de sa vocation première, de déplacer légèrement son usage pour en faire le point de départ d'une fiction. Il souhaitait voir si un outil aussi utilitaire pouvait devenir un moteur narratif, un support pour explorer des référents qui le fascinent et de quelle façon. Un guide d'identification s'est fait pour identifier des affaires dans la forêt ou dans un champ. On regarde les choses, les bibites, les plantes, puis on regarde notre guide et dans le meilleur des cas, on en ressort avec une connaissance confirmée, quelque chose de concluant. J'ai voulu jouer avec ça. La fascination que ces formations sablonneuses ont exercée sur lui tient aussi à l'aspect métaphorique qu'il leur a apposé. les considérant à juste titre comme de véritables palimpsestes, porteurs de temps anciens, dont leur présence témoigne, au fond, les esquers, c'est un peu les fantômes des glaciers. Pour moi, dans le territoire, il y a ces fantômes-là et je me disais, est-ce qu'il y a d'autres fantômes ailleurs? J'ai travaillé dans ce sens-là, je pense. Le temps, justement, et particulièrement la conscience de celui-ci et de son passage, ultimement et à diverses échelles, joue un rôle primordial en ce qui a trait au pouls de la narration, à ses respirations, qu'il s'agisse du temps passé, du temps vécu ou carrément des temps de verbe, dont la concordance a nécessité un travail méticuleux. Je pense que ces questions de langage m'habitent depuis longtemps. C'est peut-être ce qui m'a amené vers les lettres. Ça traversait déjà ce lac, où les deux agents principaux étaient le lac et le langage. Je voulais continuer ça, mais peut-être de manière moins explicite, moins frontale, avec moins d'ampleur ou d'emphase. Parce qu'il y a quelque chose de moqueur ou de drôle dans le fait de jouer avec le langage. C'est un jeu parmi d'autres, ça m'anime, oui, beaucoup même. Mais je ne voulais pas faire quelque chose de facétieux. Pour construire ce récit, l'auteur explique avoir puisé abondamment dans son imaginaire cinématographique. Plusieurs films qui l'ont marqué ont servi de repère, notamment l'atmosphère de western gothique du « Dead Man » de Jim Jarmusch, ou encore les boucles narratives oppressantes que David Lynch déploie dans plusieurs de ses œuvres. Je pensais beaucoup au cinéma en écrivant. Je visualisais beaucoup ce que je racontais. Je voyais des images plus que des mots. Je voulais une texture inquiétante, pas seulement dans les personnages bizarres ou les situations étranges, mais aussi, voire surtout, dans la structure même du récit. Au fil de la progression du roman, le magma des repères qui balisent l'univers mental de Hope se déploie avec une aisance naturelle, instinctive. Les influences, les refus, les affinités, tout circule sans jamais s'imposer, porté par une parole qui assume ses ancrages autant que ses déviations. L'auteur explique d'ailleurs qu'il tenait à faire entrer dans le livre ses propres références, convaincu que l'écriture répondait à quelque chose de profondément personnel. Pour lui, savoir ce qu'on veut dire importe, mais reconnaître ce que l'on refuse de reproduire l'est tout autant. Des fois, on sait ce qu'on veut, mais des fois, on sait surtout ce qu'on ne veut pas. Il y a beaucoup de littérature environnementale qui se prend très au sérieux et considère que son rapport à l'environnement est instantané. Je ne voulais pas que l'environnement soit juste un prétexte. Je me demandais comment faire une littérature environnementale un peu plus expérimentale. Pour moi, c'était important. Les propos tracent une ligne claire, une écriture qui refuse les automatismes, qui interroge ses propres outils, qui cherche une manière d'aborder le vivant sans céder ni au sérieux attendu, ni à la transparence factice. Ce genre précis, souvent lesté d'une gravité intrinsèque, a parfois tendance à confondre urgence et immédiateté, à croire que le rapport au monde naturel va de soi. Hope, lui, travaille plutôt avec l'écart, dans la mise à l'épreuve des formes, avec une attention soutenue à ce que la littérature peut encore déplacer. En définitive, à force de filtrer le réel comme un esquer filtre l'eau, Jonathan Hope a fini par accoucher d'un roman aussi désaltérant que cristallin. Ne reste plus qu'à vous y plonger. C'était Jonathan Hope, Fantôme et palimpseste, une entrevue réalisée par Philippe Fortin, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.
Le jardin secret des mots. Une chronique de Dany Laferrière, parue le 3 juillet 2026 dans la presse. Si je reviens sur l'Académie, c'est parce que, même en France, tant de gens ignorent à peu près tout de cette institution, même s'ils semblent tous concernés par sa présence dans le paysage intellectuel. Et pourtant, ça fait près de 400 ans qu'elle existe. Appuyée par Richelieu, approuvée par le roi et attaquée par les élites successives, de gauche comme de droite. Alors, pourquoi est-elle encore debout? La France est à la fois révolutionnaire et conservatrice. Son côté révolutionnaire veut abattre tous les privilèges, et le plus insolent est celui d'un poste qu'on puisse occuper jusqu'à sa mort. Tandis que sa part conservatrice refuse qu'on touche à un seul cheveu d'une institution qui remonte à la monarchie. On a démoli la Bastille, mais Versailles reste illuminée. la vraie raison de sa permanence est qu'une minorité de gens sensibles à la langue a toujours cru au fil des siècles que le dictionnaire de l'Académie française était un trésor national. Une équipe de rêve. La vieille dame du Quai Conti, comme certains appellent l'Académie, a traversé des guerres dont deux mondiales, des épidémies, une révolution en 1789, le bonnet rouge au vieux dictionnaire d'Hugo, les extravagances du dadaïsme et du surréalisme, les turbulences de mai 1968, sans cesser d'essuyer les quolibets de braves gens qui, sans jamais consulter de dictionnaire, affirment que tel mot n'y est pas. Quand on accuse un dictionnaire de ne pas contenir un mot, c'est qu'on admet en même temps que tous les autres y sont. Vérifiez tout de même si ce mot manquant ne se trouve pas dans une des 8 éditions précédentes qu'on peut consulter en un seul clic, car les mots ne cessent d'entrer dans l'usage ou d'en sortir. Cette académie a rassemblé dans son sein les esprits les plus déliés des 4 derniers siècles de l'espace francophone. Quelle autre institution peut prétendre avoir eu pour membre Racine, Corneille, La Fontaine, Boileau, Montesquieu, Voltaire, D'Alembert, Chateaubriand, Hugo, Lamartine, Musset, Littré, Pasteur, Bergson, Yourcenar ou Senghor, et cela sans toucher aux règlements qui la régissent depuis sa fondation. Le temps. Si vous sortez dans la rue, ou si vous allez au restaurant, vous entendrez toujours le même refrain à propos des académiciens. Ils sont vieux, ils sont riches et ils ne font rien. Qui dit ça? Parfois de vieux riches qui font encore moins. Dernièrement, quelqu'un m'a présenté à des amis sans manquer de signaler que j'étais académicien et tout de suite, « Ah, c'est la première fois que j'en vois un. Je croyais qu'ils étaient tous déjà morts. » Personne n'a jamais vu en Picasso un vieux chauve. La longue barbe blanche de Tolstoï n'a jamais été non plus un sujet de moquerie. Et Borges n'est aveugle que pour sa mère. On ne voit pas Tolstoï. On admire Anna Karénine. On ne voit pas Picasso. On touche Guernica. On ne voit pas non plus Borges. On lit fiction. L'émotion reste impassible face au temps ravageur. Et même quand Hugo a écrit « L'art d'être grand-père », on ne lui a pas intimé l'ordre de quitter la scène, vu son grand âge. On a plutôt fait un triomphe à son recueil de 27 poèmes, dont l'inoubliable « Jeanne était au pain sec ». Alors pourquoi d'autres se font-ils chahuter pour avoir atteint un certain âge, surtout quand on sait que chaque époque a son idée de la vieillesse? Il faut avoir beaucoup écrit, beaucoup pensé, beaucoup lu et même beaucoup vécu pour être vraiment utile au dictionnaire. Notre rapport à la mémoire compte dans l'édification d'une cathédrale où les mots sont comme des pierres qui permettent de remonter le temps sans se perdre en main. Aujourd'hui, à partir de 18 ans, on peut envoyer à l'Académie une simple lettre précisant qu'on aimerait occuper un fauteuil vacant. Armand du Cambou de Coiselin, petit-neveu de Richelieu, est entré à l'Académie à 16 ans, en 1652. C'est l'exception qui confirme la règle. La mémoire effacée. Une jeune New-Yorkaise croisée au musée Guggenheim me pose à brûle-pourpoint cette question qui n'est pas de mise à Paris. À Paris, on parle aisément de sexe, mais pas toujours d'argent. Combien gagne-t-on à l'Académie? C'est 3 500 euros par an si on participe à toutes les séances. J'ajoute que je paie mon loyer, ma nourriture et que j'achète une carte de métro pour mes déplacements. J'élimine ainsi tous les obstacles pour participer à cette grande aventure du langage. Outre la commission du dictionnaire, affectueusement appelée le comité central, je m'active à presque toutes les commissions littéraires et sociales, sauf la commission administrative parce que je ne sais pas compter. Et qu'est-ce que vous faites au juste? Le dictionnaire. Seulement ça? On doit rester constamment en éveil auprès d'une langue qui souffre de mimétisme depuis un moment. Mimétisme, oui. Le fait qu'elle fasse tout pour ressembler à une autre langue supposée dominante. Le marché. On a terminé la conversation dans un petit café pas loin du musée. Et qu'est-ce qui se passe quand on utilise un mot anglais à la place du mot français? Eh bien, on perd une couleur, une musique et une étincelle de vie. Ce mot nous a servi pendant des siècles et brusquement, sans raison, on le jette aux orties. C'est ainsi que ceux qui l'ont employé avant nous s'effacent doucement de notre mémoire. C'est si grave? Il s'agit d'un déluge de mots anglais qui nous tombe dessus comme une pluie tropicale, mais c'est au peuple de choisir dans quelle langue il veut s'exprimer. Il peut utiliser le français et l'anglais à tour de rôle, mais il ne peut pas parler deux langues en même temps. Parler deux langues en même temps, le franglais, c'est le rêve du marché qui veut faire vite pour gagner plus. Vous vous trompez. Le marché veut que tout se passe dans une seule langue planétaire. Le CID agité. L'une des attaques qui reviennent le plus souvent à propos de l'Académie est qu'elle est poussiéreuse. Cela a démarré en 1637 avec la querelle du CID, 2 ans après que l'institution a reçu ses lettres patentes. Ceux qui la critiquent aujourd'hui sur ce plan ne font que reprendre de vieux arguments. Corneille a fait voler en éclats la règle des 3 unités ce soir-là au Théâtre du Marais. Au lieu de condamner, comme on s'y attendait, les outrances de ce jeune dramaturge de 30 ans, l'Académie a cherché à ménager la chèvre et le chou et s'est mis tout le monde à dos. Sans les tergiversations de l'Académie, on se demande quel aurait été l'avenir de cette pièce qui continue à enthousiasmer la jeunesse. Il est vrai que l'Académie, sur des sujets plus brûlants, ne s'est pas assez engagée ou a pris trop de temps avant de prendre position. Mais il est bon qu'une société se garde un espace où un arbitre sans passion et enregistre la nouveauté sans précipitation. Une institution aussi ancienne ne peut accéder aux désirs de chaque individu ni aux pressions venant de divers groupes souvent opposés. Elle doit mettre au profit du plus grand nombre sa longue expérience, car les passions changent. Il lui faut d'abord protéger ce jardin secret des mots. Mot nouveau. Pourriel. Ce mot venant du Québec est noté ce jeudi 2 juillet 2026 dans le dictionnaire de l'Académie française et sera affiché dans la livraison de juin 2027. C'est lent, mais c'est historique. C'était « Le jardin secret des mots », une chronique de Dany Laferrière, parue le 3 juillet 2026 dans La Presse.
Les restes du célèbre mousquetaire d'Artagnan ont-ils été retrouvés? Un texte de l'agence France-Presse paru le 2 juillet 2026 dans Le Devoir. Des analyses supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si des ossements enterrés sous une église néerlandaise appartiennent au célèbre mousquetaire D'Artagnan, décédé il y a plus de 350 ans, ont déclaré dernièrement les autorités locales. Après des mois de spéculations et de reportages faisant état d'enquêtes bâclées, la mairie de Maastricht a indiqué tomber sur un os, avec des résultats de premières analyses fournissant à la fois des indices et des nouvelles questions. L'origine du squelette et les circonstances du décès restent pour l'instant incertaines, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Les caractéristiques du squelette correspondent à ce que l'on sait historiquement de D'Artagnan, mais elles ne sont pas suffisamment précises pour permettre une identification définitive. Des recherches supplémentaires sont donc nécessaires, ont poursuivi les autorités. La découverte du squelette dans la nef d'une église moderne de Maastricht, dont les origines remontent au moins au XIIIe siècle, a suscité en mars un vif engouement médiatique à l'échelle mondiale. Charles de Batz de Castelmore, dit D'Artagnan, célèbre mousquetaire des rois Louis XIII et Louis XIV, originaire de Lupiac, a passé sa vie au service de la couronne de France. Ce gentilhomme gascon a inspiré au XIXe siècle à Alexandre Dumas son héros des Trois Mousquetaires, célèbre aujourd'hui dans le monde entier grâce aux romans et à de nombreuses adaptations cinématographiques. Durant le siège de Maastricht en 1673, le mousquetaire a été tué, vraisemblablement par balle de mousquet. Son lieu de repos est depuis resté un mystère. Selon le média régional L1, des erreurs ont été commises lors des premières fouilles, entraînant ici la perte d'informations précieuses. La mairie a pris le relais en menant des fouilles d'urgence, mais a reconnu que l'enquête en avait pâti. Aucune documentation archéologique n'ayant été établie conformément aux normes habituelles avant les fouilles d'urgence, une partie du contexte archéologique a été perdue, indique le communiqué. La perte de ces informations limite les possibilités d'interpréter pleinement la tombe et le squelette, ajoute le communiqué. Les autorités ont indiqué qu'elles devaient mener des analyses archéologiques, historiques et génétiques supplémentaires afin de déterminer si les ossements avaient autrefois appartenu au célèbre mousquetaire. D'ici là, toutes les hypothèses restent envisageables, ont déclaré les autorités. C'était « Les restes du célèbre mousquetaire D'Artagnan ont-ils été retrouvés ?» Un texte de l'agence France Presse paru le 2 juillet 2026 dans Le Devoir.